Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui, j'allais dire, qui charge votre mobile. Alors, je suis complètement à l'ouest là, c'est l'hiver, il fait noir et tout, c'est Positron l'émission où on vous recommande des trucs cool en 20 minutes. Et oui, je suis Patrick Béja et si on commence à fatiguer un petit peu, eh ben c'est pas grave parce que moi je vais avoir une recommandation qui va réveiller tout le monde. Je vais vous en parler dans un instant, après avoir tout de même salué, remercié et dit bonjour aux co-animateurs qui sont là, à commencer par Dyrène. Comment ça va, Dyrène ?
Bonjour, eh bien écoute, ça va bien, on s'approche de Noël, c'est cool.
Ouais, n'est-ce pas ? Il y a des lumières partout, on commence à... Ah ! Est-ce que vous avez pensé aux cadeaux ? Non ? Bah écoutez, ça tombe bien, on a des trucs à vous recommander que vous pourrez offrir en cadeau, magnifique. Kassim, t'as déjà fait tes cadeaux de Noël, toi ? T'as tout acheté ?
Non, puis alors en plus je suis désolé, je pense que ce que je vais conseiller, c'est difficilement offrable en cadeau. Mais
merde ! Bon, mais il faudra aller voir dans les épisodes précédents.
Et encore un mois.
D'accord. Karine, tu vas bien ?
Moi, ça va très bien. Et ma recommandation, elle donne le sourire à tout le monde.
Voilà, c'est parfait. C'est comme ça que j'aime. Bah écoutez, c'est très bien. Et comme je le disais, on a une... Alors, on n'a pas fait beaucoup de musique ces derniers temps. Et je me suis dit qu'il faudrait quand même un petit peu de musique. Et j'ai découvert... tout à fait par hasard, un album que j'aime beaucoup. Ça s'appelle The White Pixel Ape et c'est du groupe Chaka Ponk. Et c'est un truc, alors quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, tout ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah oui, ils sont très bien, le premier album est mieux, mais celui-là est pas mal aussi. » Alors j'ai écouté un petit peu le premier, mais je trouve que celui-là, je l'ai préféré finalement. Et c'est un truc... comment dire, j'allais dire c'est indescriptible, c'est pas indescriptible, mais c'est particulier. C'est un groupe français en fait qui chante principalement en anglais, un petit peu en espagnol et un tout petit peu en français il semble, mais principalement en anglais, et ils font des trucs, enfin c'est, comment dire, c'est vraiment, c'est un petit peu du n'importe quoi. C'est entre la musique électronique, le punk, le rock expérimental, le rap, enfin, vous savez quoi, je vais vous jouer quelques morceaux, et j'espère que ça va marcher, comme je le disais à la session précédente, ça n'avait pas bien marché, mais je vais jouer un petit peu, et vous allez vous faire votre propre idée, voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais monter un petit peu le son, donc ça donne un petit peu la pêche, vous voyez. Un petit peu plus loin, hop. Donc là, vous voyez, il chante qu'il est une lucky girl, hein, très bien, tout va bien. C'est rock classique, ok, très bien. Ensuite, on enchaîne sur d'autres choses. Est encore relativement classique, mais c'est un petit peu plus. On a déjà un petit peu plus envie de bouger la tête, quoi. Donc ça reste relativement classique encore. Là, c'est un morceau que j'adore, ça s'appelle Story of My Life. Là, on est plus dans le funk avec les... Vous n'êtes pas en train de bouger la tête, là ?
Si. Mais ça marche très très bien, hein, chaque personne qui va pouvoir mettre la patate.
Et si vous voulez aller voir le clip de ce morceau en particulier, il est excellent. Ça s'appelle donc Story of My Life. C'est comment dire? Je vais encore passer un morceau. Attendez que je retrouve. Hop, voilà, celui-là. Là, on est presque, c'est genre Blink 182, Sum 41, c'est du punk californien un peu. Allez, un dernier. Hop. Voilà, donc c'est Chaka Ponk, The White Pixel Ape, et franchement, c'est un mélange complètement, je dirais pas improbable, mais intéressant, de plein de trucs, de styles différents, et c'est des Français, et quand j'ai regardé en fait le clip de The Story of My Life, tu vois immédiatement, c'est le genre de groupe qui, enfin, genre limite punk anarchiste qui traîne au hall avec le chien et les tatouages. Enfin, tu vois, Diren, c'est
ouais,
ceci,
des punks
quoi.
À chien, quoi. Ouais, non, ouais. Je trouve un peu plus classe que ça, quand même.
Ouais, tu trouves? Je sais pas. Moi, je trouve. Enfin, ils sont classe parce qu'ils font de la super musique. Mais je suis sûr qu'il y a des punks à chien qui font de la super musique aussi, tu vois? Non, peut-être pas.
Ouais, je sais pas.
Bon, en tout cas, ils sont super super bons pour te donner la pêche. Et franchement, c'est comment dire, c'est là, c'est difficile à faire passer quand on écoute que quelques petits morceaux, 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Mais c'est hyper créatif en fait, c'est hyper inventif. C'est pas, ils ont pas inventé le fil à couper, la musique, mais et il n'empêche que c'est des assortiments de plein de trucs différents. Il y a différents, comme on disait, il y a du français, de l'espagnol, du, et tu sens qu'ils ont, je sais pas, ils ont un truc quoi, ils ont une étincelle et ils te font passer cette étincelle par les oreilles. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cet album, c'est The White Pixel Ape, et je pense que, enfin je sais pas, Diren, tu t'avais l'air de connaître le groupe, tu confirmes que les autres sont encore meilleurs ou?
Je suis pas une grosse fan de Chaka Ponk, j'ai pas écouté les albums en entier, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur un de leurs morceaux, je l'écoute en entier et que ça met la patate. Et en fait, c'est surtout que c'est ils rentrent pas dans des cases en fait. C'est, tu sens quoi, c'est des esprits rebelles, ça s'entend dans leur musique et ils tentent des trucs qui rendent la plupart du temps excellemment bien. Et voilà.
Ouais, voilà. Exactement. Donc, The White Pixel Ape, c'est un album de Chaka Ponk et je le recommanderais. Voilà, c'est un petit peu à tout le monde, quoi. C'est de la musique énergique, donc évidemment, si vous aimez que le classique ou, je sais pas, la musique moderne et Pierre Boulez, c'est pas forcément pour vous. Mais sinon, c'est vraiment un petit peu pour tout le monde. C'était ma recommandation, d'Irène, justement. De quoi nous parles-tu ?
Alors moi, je vais vous parler d'un film d'animation tout doux, tout mignon, qu'on peut regarder sous sa couette au chaud pendant pour oublier le froid dehors. C'est Ernest et Célestine, un film sorti en décembre 2012, franco-belgeo-luxembourgeois et basé sur les albums de Gabriel Vincent. Alors si vous avez eu des livres pour enfants quelque part entre 1981 et 2000, vous êtes probablement à un moment ou un autre tombé sur Ernest, le gros ours brun, et Célestine, la petite souris. Donc le film Ernest et Célestine raconte, s'extrait complètement de la mythologie des albums. C'est plutôt une porte d'entrée pour les albums, puisque dans les albums, en fait, Ernest et Célestine vivent ensemble, ils vivent des aventures ensemble, mais à aucun moment on ne sait qu'est-ce qui les connecte, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, etc. Et en fait, le film Ernest et Célestine propose une théorie sur comment est-ce que Ernest et Célestine se sont retrouvés ensemble. Alors c'est en plus un truc hyper agressif parce que le scénario a été écrit par Daniel Pennac, et je suis sûre que vous lisiez du Daniel Pennac quand vous étiez petit. C'est l'auteur du Bonheur des Ogres, La Fée Carabine, etc. Et donc le pitch de Ernest et Célestine, c'est deux mondes séparés, sous terre les souris et au-dessus les ours. La nuit, les souris sortent pour récupérer les dents des ours en cachette. Et Célestine est une petite souris qui a grandi à l'orphelinat et elle a un quota de dents à ramener. Et un soir, elle va chercher une dent, elle est à deux doigts de se faire attraper, du coup elle se cache dans une poubelle. Pendant ce temps-là, Ernest, le gros ours ermite qui ne vit pas dans la ville avec les autres ours, se rend compte qu'il a plus rien à manger et va venir essayer de taper la manche en ville, etc. Enfin, après toute une histoire totalement rocambolesque, les deux se retrouvent à s'entraider, entre autres parce que Ernest a faim et du coup Célestine lui indique son passage secret pour rentrer dans la chez le fournisseur de bonbons. Et du coup Ernest se gave, sauf que tous les deux en fait vont se mettre en infraction avec les lois de leurs deux communautés et vont se retrouver à être poursuivis tous les deux. Voilà. Et je ne vous en raconterai pas plus.
Mais c'est mais... un truc palpitant du coup.
Ah mais en fait oui. C'est ça. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est quelque chose de très doux, de très très tendre, et en même temps ils vivent des aventures palpitantes. Voilà. À noter qu'en plus la VF et la voix française de Ernest est magnifiquement incarnée par Lambert Wilson, ce qui fait qu'Ernest est encore plus adorable. Et c'est vraiment un très très joli film, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, je suis vraiment bluffée par la technicité qu'ils ont mis à l'œuvre pour retranscrire les albums, parce que les albums, en fait, c'est des très très simples avec beaucoup d'aquarelles, et ils ont vraiment réussi à rendre ça merveilleusement dans le film. Ouais, l'animation est vraiment extraordinaire. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, Gabriel Vincent qui est décédé en 2000, c'est pour ça que la série s'est arrêtée, avait toujours refusé de son vivant d'avoir des adaptations cinéma. Et du coup, ils ont pris une énorme responsabilité en mettant ce film sur les écrans. Et je trouve, enfin, j'espère que si elle était encore vivante, ça lui plairait beaucoup, parce qu'ils ont vraiment respecté et compris le matériel original.
D'accord.
Et puis, en plus, il y a un petit message politique très très simple, hein, avec ces ours et ces souris qui vivent les uns à côté des autres, mais qui ont très peur les uns des autres et qui veulent surtout pas se mélanger. Et c'est fait d'une manière intelligente. Donc je recommande fortement Ernest et Célestine pour les petits et les grands.
D'accord. Donc c'est pour les. Est-ce que si on n'a pas de petits à côté, c'est vraiment.
Oui.
Ouais, vraiment.
Oui, je te dis vraiment si t'es. Alors c'est pas un truc où tu vas dire ah demain soir on regarde Ernest et Célestine, mais si. Si t'es un peu mou, que t'as envie d'un truc cool et doux et qui te fasse te sentir bien, c'est le moment d'attraper ton plaid et Ernest et Célestine et de prendre le temps de le regarder.
D'accord. Bah très bien, merci beaucoup, d'Iraène. Kassim, de quoi nous parles-tu, toi ?
Moi, oui, pardon, j'étais en train de regarder si Ernest et Célestine était sur... Non, j'étais en train de regarder s'il était sur Netflix France, et je découvre qu'il est sur Netflix Canada, comme beaucoup de productions européennes qui se retrouvent avant sur le Netflix américain plutôt que le Netflix français. Merci les lois, bref.
Et pourtant, celui-ci, décembre 2012, ça va, quoi, ça fait presque 4 ans. Hein.
Oui, mais bon.
Ça doit être à quelqu'un d'autre que...
Non,
ouais,
mais
oui. Sans doute, non, mais ça. Question de droit, ouais.
Bref, donc oui, d'ailleurs je vais vous recommander une série Netflix en plus, quelle transition magnifique. Je vais vous recommander en fait Luke Cage. Alors j'avais hésité, c'est vrai qu'en fait je ne savais pas ce que je conseillerais dans ce numéro, et j'avais le choix entre pas mal de choses, et j'ai décidé de recommander Luke Cage parce que j'avais vu en plus Patrick en parler sur Twitter, et je pense qu'on va pas forcément être d'accord sur tout, et je pense qu'il y aura une discussion qui sera intéressante. Donc c'est une série qui est arrivée à la rentrée sur Netflix. et qui est la troisième série Netflix originale, adaptée en fait de, d'un comics Marvel après Daredevil, les deux premières saisons de Daredevil, et Jessica Jones l'année dernière. Donc là, c'est le troisième héros qui est Luke Cage, le troisième héros new-yorkais. Il y en aura une quatrième en début d'année prochaine, normalement, avant, avant leur réunion à eux, leur petit Avengers à eux new-yorkais qui s'appellera The Defenders.
Et le quatrième, c'est au mois de mars, ouais. Et c'est Iron Fist.
Voilà, merci. Et du coup, donc là, donc c'est Luke Cage qu'on avait déjà vu, d'ailleurs, dans Jessica Jones. Il avait déjà fait une petite apparition en second rôle. Donc là, c'est sa vraie série à lui, et ça se passe dans le quartier de Harlem. On sort de Hell's Kitchen, et donc on arrive dans le quartier de Harlem. Donc désolé pour les critiques américains, la majorité du casting est noir, parce que Harlem est un quartier historiquement noir de New York. Et en fait, alors c'est très intéressant comme série, parce que pour moi, c'est presque pas une série de super-héros, ni une série vraiment Marvel. On ne te dirait pas que c'est une série Marvel, à part le super pouvoir de Luke Cage, il n'y aurait pas vraiment grand chose qui te l'indiquerait. Puisque donc, le héros résiste aux balles et a une force surhumaine, capable de arracher un mur. Et en fait, il va se retrouver impliqué, malgré lui, dans une affaire de mafia, de gang à New York. En fait, il y a une affaire qui tourne mal à un endroit où il travaille. Et il va se retrouver impliqué dans l'affaire en fait on va de fil en aiguille en apprendre plus sur cette affaire, en apprendre plus sur Luke Cage, puisqu'on apprend même des choses sur sa vie personnelle, en fait sa vie avant, comment il a découvert son pouvoir. Et je vais pas forcément en révéler plus que ça, je pense, en fait. Si ce n'est que c'est, pour moi, c'était un... Pourquoi je l'ai aimé ? Parce que en fait c'était un... parce que justement, il sortait, je trouve, des canons un peu des séries Netflix ou des séries Marvel et des films Marvel pour son approche un peu originale du quartier et sa narration en fait qui voilà fait pas forcément appel au côté super-héros versus super-vilain et son approche voilà son approche du des personnages, la création des personnages, leur poids, leur personnalité, enfin leur poids dans l'intrigue en fait. M'ont assez bluffé. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le casting. Je trouve est particulièrement réussi. Enfin, les acteurs, moi, je trouve jouent bien, hormis un qu'on découvre sur la deuxième partie de la série qui m'a un peu énervé.
D'accord, bah on est d'accord au moins.
Oui. Là, voilà, on est d'accord sur. Je pense que tout le monde sera d'accord. Mais
ouais.
En fait, il y a un morceau de la saison qui est un peu raté à mon sens.
Un morceau, c'est un tiers. C'est les quatre derniers épisodes qui sont. En fait, le.
Oh là là, on peut pas dire que c'est raté, on se détend.
Je ne peux pas dire que c'est raté. En fait, il y a un personnage et toutes les scènes qui l'impliquent qui sont un peu ratées et du coup un pan de l'histoire malheureusement qui est un peu raté effectivement. Mais heureusement, il y a tout un pan même dans les derniers épisodes qui reste qui d'après moi reste bon et qui ont réussi à me faire garder un très bon souvenir et l'envie de recommander cette série malgré ce moment.
En fait. Comme on en parlait un petit peu avant, Cassim et moi, et je pense que beaucoup d'entre vous ont revu cette série, donc c'est limite presque une critique review de la série plus qu'une recommandation, mais moi ça m'a vraiment... Le début m'a plu, j'ai trouvé effectivement même à la limite l'intention de Marvel et de Netflix qui était, on a enfin un super-héros noir... On va le faire noir jusqu'au bout, quoi. Tu sens que c'est complètement patiné de blaxploitation, la musique,
ouais,
le quartier,
c'est un,
le.
C'est un hommage, quoi.
Voilà, complètement.
C'est un vrai hommage.
Il parle à peu près. Je pense que dans tous les épisodes, il mentionne Malcolm X et Luther King.
Pas que, parce que moi, c'est un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ils arrivent à placer plein de noms de ce que eux appellent des héros noirs et de se rendre compte que oui, la culture noire ne se résume pas juste à Malcolm X et à Luther King.
Oui, et puis il y a même dans le club de la musique tout le temps des
Oh, cette bande son.
Elle est ouf.
Enfin bon, tout ça, magnifique, on est d'accord. Le problème, c'est que pour moi, il y a deux soucis. C'est d'une part l'artifice scénaristique de la faiblesse de Luke Cage m'a vraiment énormément déçu parce que c'est un truc qui est l'artifice le plus simple, le plus idiot, le plus basique eh ben ils sont allés dedans quoi. Il y avait, je veux pas spoiler, mais il y avait mille manières de gérer la faiblesse de Luke Cage ou de créer une faiblesse à Luke Cage, et ils ont choisi le seul qui était idiot. Ce qui déjà,
en fait,
quand même...
en même temps, en fait, mais moi je trouve que justement ça leur permet de rejoindre quelque chose qui est abordé dans les comics.
Écoute, je t'avoue que Luke Cage, les comics, je les ai pas beaucoup lus, donc je suis.
C'est peut-être. Cette faiblesse fait partie d'un truc qui est abordé dans le comics.
Peut-être que c'est fidèle au comics, mais ça en fait pas quelque chose de moins idiot à mon sens, quoi. Tu vois, si c'est le cas, si c'est le même artifice dans les comics, je trouverais ça aussi bête dans les comics, à moins que ça soit mieux amené ou je sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin.
Étant donné que Luke Cage il résiste tout au bal et qu'il est super fort,
oui, mais enfin
tout ça,
c'est pas Superman, tu peux.
Non, justement. Et en fait le souci c'est, enfin ils ont voulu, pour créer une intrigue pour que les gens quand ils regardent la série ils aient peur pour leur héros, ils ont voulu absolument lui créer une faiblesse qui a déjà, bon ok, c'était pas forcément obligatoire en fait, ils auraient pu trouver peut-être un autre moyen scénaristique.
Exactement.
Et bon, quitte à lui créer un. C'est effectivement le moyen et pas le moyen d'être le plus intelligent. Et en plus, ils en parlent dans la série, ils se moquent un peu d'eux-mêmes.
Eux-mêmes de ce truc, oui. Ce qui est, et ils auraient pu trouver mille choses différentes, intelligentes à faire plutôt que ça. Bon, bref, ça, c'est une partie. Mais oui. La deuxième partie, à mon sens, ou on va dire le dernier tiers, à mon sens, est complètement ratée parce que non seulement ce personnage est mauvais, mais en plus... Il tire la série complètement vers le bas parce que scénaristiquement, ça ne tient plus. Je veux dire, tout ce qui fait ce méchant n'a pas de sens. Tout ce que Luke Cage fait en réponse, enfin, toute cette scène dans le club n'a aucun sens. Il aurait pu, enfin, la difficulté, la nana qu'il essaye de protéger, ça n'a aucune espèce de cohérence. Il aurait pu faire plein de choses d'autres que ce qu'il a fait en s'enfermant. Enfin,
en fait, moi, je pense qu'ils se sont enferrés dans une des faiblesses qui est courante dans les comics, c'est la bêtise de la population civile. C'est-à-dire que la population civile,
non mais ça j'en parle même pas, mais c'est ridicule.
Elle change d'avis comme de chemise, elle gomme n'importe quoi. C'est quelque chose qui est assez courant dans les comics. Et en fait, ils se sont enferrés là-dedans et au bout d'un moment, oui, ça casse toute la cohérence et ça donne lieu à des situations ubuesques comme celles que tu mentionnes.
Et
en même
pour
temps,
moi...
c'est la critique qu'on nous fait à tous les Marvel. Hein.
Mais tu vois, le problème c'est que dans une bonne partie, je dirais plus de la moitié des Marvel, ils réussissent justement à gérer tous ces problèmes, les poncifs du comics, ils réussissent à s'en écarter, que ce soit au cinéma ou à la télé, si on compte pas la série Agents of S.H.I.E.L.D. Les séries Netflix, justement, le personnage de Daredevil, au moins dans la saison 1, était excellemment mené du début à la fin. Les questions de oula, qu'est-ce qui se passe, il y a de la musique.
Désolé.
dans Alias, enfin dans Jessica Jones, je trouve justement que la manière dont il gère ce personnage, le méchant absolument terrifiant qui semble presque invincible du fait de son pouvoir, est justement hyper bien faite. Tu vois, justement, ce qui m'a déçu, c'est que ils se sont élevés au-dessus des défauts des comics dans une bonne partie de leur production et que dans Luke Cage, on retombe à un niveau hyper basique de, justement, comics. Oh, bah voilà, oh, c'est Luke Cage le méchant. Ah bah oui, Luke Cage, il est vraiment méchant et tout le monde répète, ah là là, c'est horrible, Luke Cage, il est vraiment méchant. Et tout à coup, à un moment, on sait pas pourquoi, bah finalement, il est gentil. Enfin, c'est oui, ça oui. M'a... Et je comprends les qualités de la série et, à vrai dire, d'une manière générale, je dis pas que c'est une série, que c'est une mauvaise série, mais que c'est tellement dommage, cette fin-là, ces quatre derniers épisodes, parce que c'est pas juste le personnage du méchant. Il y a plus. C'est toute cette écriture qui est hyper paresseuse. Là où tu sentais une vraie intelligence chez les auteurs dans les autres séries, là, tu sens qu'ils ont pris les mecs qui traînaient quelque part et qu'ils ont dit, oh, il faut nous faire un truc avec un super-héros. Il fait quoi? Bon, il est très fort. Alors, on va, chaque scène, on va lui mettre des gens qui lui tirent dessus. Voilà. Et puis après, il va courir et puis il va...
Mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'ils ont pris énormément de raccourcis et que ces raccourcis les ont menés à une paresse totale. Ce grand méchant auquel vous faites référence, normalement, enfin, dans les comics, c'est deux personnages différents. Et du coup, et du coup, d'avoir fusionné les deux, ça donne un truc super paresseux, quoi. Ça, du coup, le personnage perd beaucoup en profondeur. C'est très dommage, je trouve. Mais ceci mis à part, on s'en fout, la photo elle est trop belle, la musique elle est trop bien, et le gars qui incarne Luke Cage il est trop beau, donc que demande le peuple.
Il est pas mal, j'avoue.
Il est très charismatique.
D'ailleurs, il était dans comment ça s'appelle, la série avant,
Jessica Jones.
Non, dans pas lui, l'acteur dans
Michael Turner, c'est The Good Wife ou
The Good Wife. Merci Karine. C'était dans The Good Wife et il était tellement classe dans The Good Wife. Il a un sourire qui fait fondre, quoi. Mais bon, bref, c'est je pense qu'on est d'accord en fait. C'est juste qu'on accorde une importance différente à ces différentes parties de la série. Mais au final, on est tous d'accord sur l'appréciation.
Moi, ça me pousserait quand même à la recommander. Et surtout, je pense qu'elle peut intéresser malgré tout. Moi à la base je voulais la recommander pour tous, dans le sens où pour moi c'est vraiment pas une série, je pense qu'on peut le dire aussi pour Jessica Jones et Daredevil, mais on peut encore plus le dire, j'ai l'impression, pour Luke Cage, que c'est une série pour tous, dans le sens où c'est vraiment pas une série de comics et je vois pas ce qui empêcherait en tout cas pour les premiers épisodes, même si on n'est pas forcément d'accord sur le dernier tiers. Je vois pas ce qui empêcherait de recommander, sous prétexte que c'est par exemple une adaptation de comics, tu vois, il y a pas vraiment d'éléments de super-héros ou de SF, hein, de...
Oui, c'est ça, c'est gens sont allergiques aux héros en slip, ils peuvent regarder les séries Marvel, quoi.
Ouais. Alors si vous êtes raciste, c'est vrai que cette série vous plaira pas forcément, quoi, en fait.
je voulais dire un dernier truc sur les séries Netflix en général de Marvel. Il y a un truc que j'ai remarqué qui est vraiment, et c'est encore plus vrai dans Luke Cage, c'est le côté piéton des héros et le fait que tout se passe à chaque fois dans un quartier donné de New York donne un côté, on découvre New York en fait. Enfin,
tu vois plus façon, New York par exemple, quand t'es dans les studios en fait, c'est ça que t'es en train de dire.
Non, et puis plus que dans les, tu vois, les séries, il y a eu des tonnes de séries qui sont passées à New York. Mais
pas toutes sont filmées à New York.
Bah, déjà, pas toutes sont filmées à New York, c'est sûr. Et puis même quand, enfin, je pensais la série.
Non, mais Daredevil, il parle de Hell Kitchen toutes les deux minutes. Voilà. Ils sont là, Hell Kitchen, il faut protéger this city. You are a plague on this city. Ils disent tout le temps this city. Ça devient ridicule au bout d'un moment. Mais oui, là, c'est Harlem. Enfin, Harlem, c'est un personnage de la série complètement.
Voilà, et même d'autres séries qui peuvent se passer à New York, les mecs sont en voiture toutes les 3 secondes, tu passes d'une scène à l'autre, et du coup il y a un côté vraiment moins urbain de l'approche de la ville en fait. Plus je regardais Luke Cage, plus je me disais, en fait c'est un peu la meilleure adaptation de GTA qu'on puisse faire en série ou en film. En un sens.
Voilà. Pas mal. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà notre avis. Hein. Je pense que vous pourrez venir nous dire ce que vous en avez pensé aussi sur Twitter et dans les commentaires de l'émission, si vous l'avez vu ou si vous la regardez à partir de cette recommandation. Karine, toi aussi, tu veux nous parler d'un truc qui, je pense, va donner le sourire à tout le monde, comme tu le disais.
Oui, ça s'appelle Avenue Q. C'est une comédie musicale. Elle a eu des représentations en France il y a 2-3 ans, pas en France, à Paris. Mais en revanche, je ne sais pas dans quelle version, parce que moi, je l'ai vu à Londres. Je ne sais pas si elle a été traduite en français ou si c'était une version anglaise. C'est une comédie musicale où tu as des marionnettes un peu comme le Muppet Show et leurs marionnettistes qui sont sur scène et donc qui jouent leur propre rôle. Et tu as deux catégories de marionnettes. Tu as des marionnettes qui nous ressemblent et tu as des marionnettes qui ressemblent à des animaux ou des monstres. Et ça parle que de cul, que de travail. La vie d'un étudiant qui arrive à New York et qui cherche son premier boulot en sortant de la fac.
Ouais, c'est vraiment genre les marionnettes, mais pour adultes, quoi.
C'est les marionnettes pour adultes. Les enfants peuvent rire. Mais il y a une scène de vraiment de sexe entre deux marionnettes qui fait rire les adultes. Je suis pas sûre que ça soit bon pour les enfants.
Bah, il y a en particulier l'un des morceaux qui est très connu de cette comédie musicale. C'est The Internet is for Porn, et je suis sûr que plein de gens la connaissent. Attends, je vais essayer de passer un petit morceau là.
Oui, celle-ci.
Alors attends. Hop.
Sinon je peux la faire,
attends,
hein, je suis sûr.
Je vais faire. Bon, le son est pas très bon. Attendez, je vais.
Je pense que j'adore.
Qu'est-ce que c'est ça? Non, hop, pardon. Excusez-moi.
J'adorerais mon enfant emmener voir cette comédie musicale et qu'en sortant, il me chante Internet is for porn. Ce sera génial.
Attendez, c'est. Oh, hello, kid monster. You are ruining my et en fait, c'est les marionnettes qui expliquent que l'internet a été créé pour le porn, mais l'autre, elle sait pas. Et il faut se souvenir que ça a quoi? 10-15 ans là.
2002, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment nouveau à Internet à l'époque pour certaines personnes.
Oui, et en fait, le personnage est une prof de maternelle. Et bien, ce personnage-là est la jeune femme qui chante. Elle joue le rôle d'une prof qui travaille à la maternelle. Elle veut leur faire découvrir Internet. Et donc ses colocataires lui disent non, mais c'est pas une bonne idée. Et donc ils expliquent pourquoi. Et elle tombe des nues parce qu'elle a jamais utilisé Internet pour ça, évidemment, parce que c'est une fille. Donc a priori, l'idée générale, c'est que c'est les mecs qui regardent le porno sur Internet et les filles, elles font autre chose. Elles achètent des trucs, par exemple.
Et donc, voilà. C'est marrant parce qu'il lui explique effectivement dans toute la chanson. Ah mais enfin bon bref, on va pas trop en dire.
Oui,
c'est
celle-ci, elle est très très drôle, mais c'est aussi une comédie musicale sur la tolérance. En fait, on entre dans l'univers par un jeune garçon qui vient, enfin pas un jeune, hein, il sort de la fac, il cherche un endroit où habiter à New York, et comme tout le monde le sait, New York, ça coûte la peau des fesses, et donc il arrive là, et il demande s'il y a un endroit pour se loger, s'il y a des endroits pour la location, et on le dirige vers le janitor, enfin l'homme d'entretien de l'immeuble, qui est en fait Gary Coleman de Arnold et Willy. Mais c'est un acteur qui joue le rôle de Gary Coleman. C'est un jeu sur le fait que c'est pas lui, mais il joue le rôle de Gary Coleman. Et Gary Coleman qui aurait raté sa carrière d'acteur après Arnold et Willy. Et donc lui est black, évidemment. Et les autres sont soit blancs, soit des marionnettes, soit des monstres. Et donc il y a une excellente chanson qui dit « Tout le monde est un peu raciste ». Et donc il le montre lorsque l'un des personnages dit « Mais je suis mariée à une orientale ». Et là tout le monde, elle, sa femme l'engueule pour avoir utilisé le terme oriental, puisque c'est pas correct de dire ça.
Politiquement correct, ouais.
Ouais, voilà. Et les autres disent, mais tu vois, t'es un petit peu raciste aussi. Et toute la chanson est sur ce thème-là.
Bah attends, on peut en passer un petit peu. Je pense que c'est difficile à traduire hein, en français parce que c'est des termes et des idées et des concepts qui sont très américains. Mais alors, qu'est-ce que ça donne ? Admitting it is not an easy thing to do. But I guess it's true. Between me and you, I think everyone's a little bit racist sometimes. Doesn't mean we go around committing hate crimes. Look around and you will find no one's really colorblind. Maybe it's a fact we all should face. Everyone makes judgments based on race. Now not big judgments like who to hire. C'est marrant.
Bon, évidemment, il faut comprendre hein, si on veut l'avoir en anglais, mais c'est très très drôle, c'est très bien écrit.
Et donc, le personnage asiatique, c'est celle qui va être la plus dure dans les propos. elle dit quelque chose qui est, bah, qui est pas vrai, mais que tout le monde pense, c'est que les Juifs ont l'argent, les Blancs ont le pouvoir et les autres ont rien. Et c'est à hurler de rire quand on prend un peu de recul. Mais c'est en même temps très très vrai, même que ce soit pour les États-Unis, mais c'est aussi vrai dans d'autres circonstances en France. Si on replace dans le contexte français, on a à peu près les mêmes choses. Et, et le fait que ce soit des marionnettes qui le disent, ça passe un petit peu mieux quand même.
Bah, c'est ça en fait tout le truc de la comédie dont j'ai vu plusieurs extraits, mais pas en entier, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée que bah, quand c'est des marionnettes, tu peux dire plein de trucs que tu pourrais pas dire autrement, et c'est ce qui fait que le truc marche tellement bien, et c'est tellement outrageous, enfin c'est outrancier, c'est choquant, mais comme c'est des marionnettes, ça va, et donc c'est vrai que c'est une vraie réussite ce truc. Et d'ailleurs, tu disais, elle est passée en France il y a quelques années, elle tourne tout le temps un petit peu partout dans le monde, elle a un succès fou depuis le début, elle a commencé à Broadway, je crois, hein.
C'était... Oui, oui, je crois qu'elle a commencé off-Broadway beaucoup de comédies musicales. Elle est arrivée sur Broadway. Et puis après, là, elle est en tournée. Elle reste en tournée aux États-Unis. Je sais qu'elle a été arrêtée à Londres il n'y a pas très longtemps de ça, parce que moi, je l'ai vue à Londres. Et j'en suis vraiment heureuse. Dans une petite salle, je crois que c'est un des plus petits théâtres de Londres dans lequel je suis allée. Et c'était fantastique. En plus, c'était super interactif. Il y avait des écrans en plus, mais pas pour projeter ce qu'on voyait sur scène, puisque la scène était un petit théâtre, mais pour ajouter des choses en plus. Et c'est vraiment excellent. Bon, j'avoue que la scène de sexe, elle gêne tout le monde, mais elle est tellement outrancière qu'on on finit par en rigoler. Mais rien qu'à l'entendre,
juste pour ça, parce qu'elle gêne tout le monde.
Ah, probablement, mais même si elle est sur le CD, et rien qu'à l'entendre, tu comprends ce que tu es en train de voir. Enfin, parce que tu vois pas, mais voilà.
D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça s'appelle Avenue Q, donc Avenue Q, qui en français prend un sens encore plus fort, mais c'est pas écrit comme ça, bien sûr. Et c'est une comédie musicale.
Et c'est disponible.
C'est disponible en CD, en enregistrement, ou si vous pouvez l'attraper quelque part, ça vaut peut-être le coup. Merci de cette recommandation, Karine. Et c'est donc la fin de notre session de rentrée 2016 de Positron. Donc, pour la dernière fois, est-ce que vous pouvez me dire chacun où on peut vous retrouver sur Internet, puisqu'on ne sera plus là pour le prochain épisode d'Irène?
Excuse-moi, j'ai décroché. Pardon.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur d'Irène, sur Twitter, ABCD Podcast?
Et joyeux Noël. D'Irène sur tous les réseaux sociaux, et vous pouvez me retrouver sur ABCD, le podcast des parents geeks.
Merci beaucoup, Kassim.
Bon, on peut me retrouver sur Twitter @notcassim, NOTCA2SIM, et puis sur lifestyle.fr un jeudi sur deux.
Magnifique. Voilà. Et donc Karine, c'est @suivre.org, c'est ça?
Exactement.
Avec
et toi, pour... Patrick.
et pour moi, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous retrouvez aussi cet épisode à commenter sur frenchspin.fr et les autres podcasts que je produis, dont Au hasard, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu et Upload. Voilà, comme ça, j'ai dit tout le monde, toujours sur frenchspin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne donc rendez-vous normalement dans 15 jours pour le prochain épisode avec une nouvelle équipe. Ciao à tous! Dumb, 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 dumb Thank you.